Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, le bon Dieu, après sa montée au ciel, le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques, n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il ne veut pas laisser ses enfants tout seuls. Et donc, il va rester avec nous d'une certaine façon. Bien qu'il soit au ciel, il a voulu un acte de miséricorde absolument incroyable, rester chez nous, rester dans nos tabernacles pour pouvoir nourrir nos âmes, rester cachés sous les apparences du pain et du vin. Et pour cela, il a institué le Saint-Sacrifice de la Messe. Pour cela, il a institué le sacerdoce catholique, afin justement que les âmes laissées sur la terre dans le grand combat pour gagner le paradis, lutter contre l'esprit du monde, et bien pour que ces âmes puissent ne pas rester en quelque sorte sans nourriture spirituelle. Et c'est pour cela que le bon Dieu a institué ces trois piliers en quelque sorte de la foi catholique, le Saint-Sacrement, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe et le sacerdoce. Il a voulu instituer ces trois choses le même jour, le Jeudi Saint. Et nous sommes des enfants vraiment favorisés par le bon Dieu, parce que le bon Dieu est tellement près de nous que non seulement il est près de nous, mais il vient en nous littéralement par la présence réelle, par la Sainte Communion, lorsque nous recevons en état de grâce le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur. Et il faut méditer, mes bien chers frères, aujourd'hui, en ce jour où nous commémorons justement de façon solennelle la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Sacrement. Il nous faut justement comprendre, méditer cette miséricorde infinie du bon Dieu sur nous. Et c'est une conséquence directe du mystère de l'incarnation. Et c'est pour cela que l'Église a bien voulu l'exprimer, a voulu l'expliciter par le choix, par exemple, de la préface. La préface, c'est la préface de la nuit de Noël, de l'Nativité. Même dans l'Office divin, on retrouve des tas de choses qui viennent justement de la Nativité de notre Seigneur, le 25 décembre, pour bien montrer que c'est exactement le même Dieu qui est arrivé le 25 décembre sur la terre, fruit de la très sainte Vierge Marie, et le même Dieu que nous adorons sur l'autel lorsqu'il descend pendant la Sainte Messe. Donc de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ descend parmi nous, est descendu parmi nous le 25 décembre, dans le bras de la très sainte Vierge Marie, de la même façon, le même Dieu, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité viennent sur l'autel de la même façon. Pour cela que la Sainte Messe, mes bien chers frères, c'est le renouvellement du mystère de l'incarnation. Ce n'est pas simplement le renouvellement du mystère de l'incarnation, c'est le renouvellement du mystère de la rédemption, les deux choses à la fois. La consécration renouvelle, les deux consécrations renouvellent l'incarnation, et en quelque sorte la communion du prêtre, puis après la communion des fidèles, mais surtout la communion du prêtre, va renouveler le mystère de la rédemption, par la consommation du sacrifice, puisque la messe n'est rien d'autre qu'un sacrifice rédempteur. Alors, il faut penser, mes bien chers frères, à remercier le bon Dieu. Remercier le bon Dieu de cette grâce incroyable qu'il nous a donnée, d'avoir parmi nous, chez nous, dans nos tabernacles, notre Seigneur Jésus-Christ. Le même Christ, le même Dieu, le même roi qui est mort sur la croix vendredi saint. Alors je voudrais très rapidement vous rappeler la doctrine de l'Église sur ce mystère incroyable. Ce sont des choses que vous connaissez bien sûr, mais je voudrais quand même un petit peu les rappeler en suivant le catéchisme du Concile de Trente. Voilà, la semaine sainte se passe pendant la consécration, pendant la Sainte Messe, se passe quelque chose de tellement extraordinaire que l'Église a dû inventer un mot. Elle a dû inventer un mot qui n'était pas dans le dictionnaire théologique, et c'est ça, le catéchisme du Concile de Trente, qui a en quelque sorte forgé ce mot de toute pièce pour nous faire comprendre ce qui se passe pendant la Sainte Messe. Le mot de transsubstantiation, changement de substance. Ça veut dire que la substance du pain disparaît et est remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La substance du vin disparaît et est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le bon Dieu, encore une fois, dans sa sagesse, a voulu, pour nous faciliter justement l'accès à la Sainte Communion, à cause du dégoût naturel qu'aurait l'homme de consommer littéralement du sang, de la chair humaine, son apparence extérieure, Le bon Dieu, dans sa miséricorde encore, change la substance, mais sans changer les accidents. Tout ce qui tourne autour du pain, tout ce qui tourne autour du vin, reste non changé. Dire après la première consécration, il y a véritablement sur l'autel notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ va rester se cacher sous les apparences du pain, c'est-à-dire sous les accidents du pain. Il y a toujours la même couleur, la même texture extérieure, la même quantité d'hostie, la qualité, tout ça ne change pas et reste sur l'autel sans être changé pour justement nous permettre d'accéder plus facilement à notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, tous les accidents du vin demeurent inchangés. Quels sont les accidents du vin? D'abord la quantité de vin, il peut y avoir quelques gouttes de vin ou un peu plus de vin dans le calice, il peut y avoir différents vins avec différentes quantités d'alcool par exemple, il peut y avoir différentes couleurs du vin, il peut y avoir du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, du vin marron, ça dépend des pays, les coutumes de chaque pays. Et bien toutes ces choses-là qu'on appelle les qualités demeurent inchangées, il y a simplement un changement de substance. Et saint Thomas d'Aquin va plus loin dans les explications, il explique très bien dans sa somme que le changement de substance se fait par la force du sacrement. Par la force du sacrement, la substance du pain devient la substance du corps de notre Seigneur. Mais il explique comme notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui a un corps glorieux au ciel. Il ne peut plus séparer son corps de son âme et de sa divinité. Donc par la force du sacrement, après la première consécration et la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sous son corps, il se rajoute par concomitance la présence aussi du sang, de l'âme et de la divinité. Et pour la deuxième consécration, c'est la même chose. Pour la deuxième consécration, par la force du sacrement, la substance du vin devient la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et par concomitance, il y a aussi le corps, l'âme et la divinité. De telle façon que les fidèles qui communiquent à une seule espèce, l'espèce du pain, les apparences du pain, eh bien, vont recevoir non seulement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également son sang, son âme et sa divinité. Je explique ces choses-là aux enfants, ceux qui se préparent à la première communion. Souvent, ils demandent à M. l'abbé, est-ce que je peux, moi aussi, recevoir le sang de Jésus comme une eucalyse? On explique que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin parce que par la première communion, par votre communion, vous allez recevoir avec le corps le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il nous pose en général tout de suite une deuxième question. Il va nous dire, mais monsieur l'abbé, pourquoi vous communiez au calice? Et la réponse est une réponse qui pour répondre à ces questions d'enfants que je crains beaucoup parce qu'elles demandent beaucoup plus de réflexion que les questions d'adultes, il faut tout saint Thomas d'Aquin. Le prêtre doit communier au calice parce que la messe est un sacrifice. Et qu'il faut donc qu'il y ait une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de sacrifice. Et donc, pour pouvoir justement avoir un sacrifice réel, la messe n'est pas faire mémoire de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est un sacrifice actuel. Notre Seigneur Jésus-Christ renouvelle actuellement, de façon non sanglante, le sacrifice de l'autel, le sacrifice du calvaire sur l'autel. Eh bien, il faut qu'il y ait justement cette séparation entre le corps et le sang, le corps sur la patène, le sang dans le calice, et par la communion du prêtre, le prêtre va réassocier les deux choses par la consommation des sacrifices. C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Les sacrifices de l'Ancien Testament représentaient justement le sacrifice à venir de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de la messe. Eh bien, lorsqu'un agneau était immolé dans l'Ancien Testament, on séparait le corps et le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, fruit de son immolation, était séparé. Le prêtre, le grand prêtre allait tremper donc l'hysope, la branche d'hysope dans le sang de l'agneau, il allait asperger le peuple avec le sang de l'agneau. Vous voyez, pour bien montrer, c'est pour bien montrer que la mort de l'agneau représentait justement, allait représenter quelque chose qui allait arriver plus tard, bien plus grand encore, à savoir la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour effacer tous nos péchés. Oui, bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre, et ceci est représenté par le mot de transsubstantiation, changement de substance. Alors, il faut aussi méditer sur les fins de la messe, qui sont les mêmes que les fins de la prière. Parce que la plus belle des prières, c'est le sacrifice de la messe. Donc, les quatre fins de la messe sont les quatre fins de la prière, c'est la même chose. Pourquoi offre-t-on le sacrifice de la messe? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir sur l'autel pour effacer tous nos péchés? Là, encore une fois, les enfants nous posent toujours ces questions quand on les prépare au catéchisme. Ils nous disent, mais monsieur l'abbé, puisque le bon Dieu est déjà mort sur la croix pour effacer tous nos péchés, une bonne fois pour toutes, pourquoi il faut renouveler la messe, puisqu'il est déjà mort pour nous? Il faut leur expliquer avec des mots d'enfant, ce qui n'est pas toujours facile, que justement, il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Il est expressément dit, justement, qu'il manque quelque chose à la passion du Christ. Et ce quelque chose qui manque à la passion du Christ, c'est quoi? C'est notre participation, précisément, parce que malheureusement, l'homme, même après le sacrifice rédempteur du Vendredi Saint, l'homme continue de pécher. Donc la Sainte Messe est d'abord et avant tout offerte de façon en vue de la propitiation, c'est la fin propitiatoire du sacrifice de la Messe. Et ce que veut dire ce mot bizarre, propitiation? Ça veut dire qu'en quelque sorte, on paye ce qu'on doit. Imaginez quelqu'un qui est prisonnier, et pour pouvoir payer, se faire sortir ce prisonnier, il faut qu'un ami du prisonnier vienne payer la rançon pour pouvoir faire sortir le prisonnier de prison. Eh bien, par le sacrifice de la messe, par l'offrande du pain et du vin qui vont devenir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on rouvre en quelque sorte les portes de la miséricorde, qu'on appelle la propitiation. Et ce n'est pas, bien sûr, la seule des fins de la messe, c'est la plus importante. C'est celle sur laquelle il faut beaucoup insister, parce que c'est cette fin-là qui est niée par tous les modernistes et niée par tous les protestants. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, accepte en quelque sorte de rétablir une relation avec le pécheur à cause de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, à cause de l'effusion de ce sang. La deuxième fin de la messe, c'est la fin d'adoration, on appelle la fin natrotique. Le plus bel acte d'adoration de la Sainte Messe qui est offert à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sacrifice de la croix, renouvelé sur l'autel par la Sainte Messe. Et donc il faut avoir, je dirais, le même respect pour la Sainte Messe, la même vénération, adoration pendant la Sainte Messe pour notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faudrait avoir pour la croix elle-même, pour le mystère de la résurrection, le mystère de la rédemption établi par notre Seigneur Jésus-Christ le Vendredi Saint. Donc on doit assister à la Sainte Messe en quelque sorte avec le même respect que nous aurions si nous étions au Vendredi Saint devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en train de regarder notre Seigneur Jésus-Christ mourir pour nous, exemple sur la croix. Évidemment, nous tomberions à genoux en adoration devant le sacrifice rédempteur. C'est la même chose pendant la Sainte Messe. La Messe aussi est offerte pour demander des grâces, qu'on appelle la fin impétratoire. Pétere en latin, c'est demander. La fin impétratoire, c'est pendant la Sainte Messe, à genoux au pied de la Sainte Eucharistie, qu'il faut demander au bon Dieu les grâces dont nous avons besoin. La grâce de la foi, la grâce de l'espérance, la grâce de la charité, tous les courages dont nous avons tous besoin pour arriver à porter notre croix, et Dieu sait si les croix des catholiques sont lourdes aujourd'hui. Eh bien, c'est pendant la Sainte Messe que vous et moi, nous allons trouver les forces dont nous avons besoin afin de remettre notre Seigneur Jésus-Christ bien accroché à l'intérieur de notre âme. Enfin, la messe est aussi offerte en action de grâce, en fin eucharistique. L'action de grâce remercie notre Seigneur. Le plus beau remerciement que nous puissions donner à notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, c'est de renouveler le sacrifice de sa croix. C'est de renouveler l'acte de sa miséricorde. Le plus grand acte de la miséricorde du bon Dieu à notre égard, c'est précisément d'être mort pour nous sur la croix. Donc de renouveler la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et c'est le plus bel acte de miséricorde que nous puissions faire. Utilisant la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Il faut aussi méditer une autre partie du catéchisme du Concile de Trente qui est peut-être moins connue, qui est aussi importante. Le catéchisme du Concile de Trente explique que, bien que le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix soient en fait un seul et même sacrifice, il y a quand même des différences, mais qui sont des différences accidentelles. Il n'y a pas de différence substantielle entre le sacrifice de la croix le Vendredi Saint, le sacrifice de la messe offert sur l'autel. C'est le même sacrifice. Le même sacrifice, le même rédempteur, la même victime, le même sang, le même corps, la même âme, la même divinité. Il y a cependant des différences. La première de ces différences, dit catéchisme du Concile de Trente, c'est que le sacrifice de la croix est un sacrifice sanglant. Il y a une véritable effusion de sang depuis le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui va finir de répandre au pied de la croix tout le sang qu'il a en lui, jusqu'à la dernière goutte de son sang qui va sortir au moment où le soldat Saint-Longin va ouvrir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le perçant d'un coup de lance. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Nous aussi, nous assistons au même sacrifice. Et si le sacrifice de la tête du calvaire est un sacrifice sanglant, le sacrifice de la Sainte Messe est un sacrifice non sanglant. Non sanglant, pourquoi? Parce que, justement, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui au ciel, est un corps glorifié. La deuxième différence entre la Messe et la croix du calvaire, c'est que le sacrifice de la croix est un sacrifice dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ va mourir directement, dans son humanité. Dans le sacrifice de la messe, il va mourir indirectement. C'est le prêtre qui prend sa place. Imaginez un prêtre qui, par fausse humilité, dirait au cours de la Sainte Messe, comme formule de consécration, « Ceci est le corps du Christ ». La messe serait invalide, il n'y aurait pas consécration. Le prêtre doit dire « Ceci est mon sang ». Ok, c'est « Nim corpus meum ». Mon sang, c'est bien sûr pas le sang du prêtre qui célèbre la messe, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le prêtre, à ce moment-là, agit in persona Christi, en place et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, et par son caractère sacrificiel, son caractère de prêtre, de sacerdoce, de prêtre catholique, eh bien, le prêtre prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ et va offrir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ en prenant sa place. C'est la même chose. Pendant la confession, quand le prêtre vous confesse, il n'a pas le droit de dire, s'il disait que le bon Dieu te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la confession serait invalide, il n'y aurait pas absolution des péchés. Le prêtre doit dire, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne. C'est dans ce cas-là, le prêtre est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, agit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le prêtre est un autre Christ. La troisième différence, dit le catéchisme du Concile de Trente, qui existe entre le calvaire et l'autel, c'est que au calvaire, toutes les grâces qui vont être utilisées par le monde entier, pendant l'histoire du monde, toutes les grâces vont être en quelque sorte accumulées, préparées, ensevelies au pied de la croix. Imaginez un énorme coffre, et pendant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de sa mort il y a 2000 ans, ce coffre est rempli de toutes les grâces qui vont être nécessaires pour le genre humain. Et à chaque fois qu'un prêtre offre le sacrifice de la Sainte Messe, il ouvre en quelque sorte, il a la clé, c'est le seul qui a la clé, il ouvre le coffre et prend dans ce coffre les grâces nécessaires pour les fidèles dont il s'occupe, pour les hommes en général. Et la dernière différence, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la différence qui fait que le sacrifice de la croix est un sacrifice avec effusion de sang, alors que le sacrifice de la messe est un sacrifice avec une séparation sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est donc physique pendant le calvaire, la mort du calvaire, et sacramentelle, au contraire, pendant la Sainte Messe. Mais c'est exactement le même sacrifice. Alors, il faut aussi, je crois, insister un peu sur un grand avertissement que nous donne l'Église. L'Église, consciente de la dignité extraordinaire de la Sainte Messe, donnait en Saint Paul, aux premiers, aux Corinthiens, c'est l'épître qui est choisi aujourd'hui, justement, pour cette fête du Saint-Sacrement, l'Église va nous donner un avertissement solennel. Parce que, justement, on tient là, si vous voulez, la chose la plus sacrée de l'histoire de l'Église, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous demande Saint-Pierre ? Saint-Pierre nous demande de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ avec une âme prête à le recevoir. Malheur donc à celui qui reçoit, dit Saint-Paul, sans discernement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, une phrase terrible, une plus forte phrase du Nouveau Testament, celui qui boit et mange le corps et le sang de son Seigneur sans discernement boit et mange sa propre condamnation. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le plus épouvantable crime que nous puissions commettre sur le plan spirituel, justement, c'est de nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ sans être en état de grâce. Ça s'appelle une communion sacrilège, une confession, communion sacrilège. Bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans le scrupule. Il n'est pas question de dire, bon, ben, à ce moment-là, parce que je ne suis pas digne de communier, donc je ne communie jamais. Si vous attendez d'être digne pour communier, vous allez attendre longtemps. Personne n'est digne de communier. Même notre Sainte Vierge Marie, strictement parlant, n'était pas digne de recevoir le corps de son Seigneur. Personne n'est digne. L'Église n'a jamais posé comme condition pour la réception de la Sainte Eucharistie la dignité de la personne. Bien sûr que non. Nous ne sommes pas dignes de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que demande comme condition? Quelles sont les conditions posées par l'Église pour pouvoir communier? Il n'y en a pas 36. C'est relativement simple. Évidemment, la première condition, c'est précisément celle dont je parle actuellement, l'état de grâce. Alors, la porte de notre âme grande ouverte, si on a le malheur de commettre une faute grave, il est évident qu'on ferme la porte à double tour dans notre âme et notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pénétrer dans notre âme. Il ne va pas arriver avec un pied de biche pour ouvrir la porte par force. La première condition que demande l'Église, c'est justement ça, l'état de grâce, l'état de charité, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante présente en nous. Deuxième condition, le jeûne eucharistique. Par respect pour notre Seigneur Jésus-Christ, le jeûne eucharistique est absolument nécessaire, à savoir 3 heures avant la communion pour les fidèles, sans manger, 1 heure sans boire de liquide autre que le... pour le vin, c'est 3 heures, les alcools, c'est 3 heures, pour... le café, par exemple, ou un jus de fruits, c'est 1 heure avant la communion. L'eau ne rompt pas le jeûne, déclarait le pape Pie XII. Bon, pour le prêtre, c'est un peu différent. Le prêtre, c'est 3 heures avant le début de la messe. Le jeûne eucharistique, c'est donc la deuxième condition que l'Église nous donne par respect pour le Saint-Sacrement. Et la troisième condition, c'est l'intention droite, savoir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'une maman qui voit que son fils, par exemple, son enfant a été en âge de faire sa première communion, qui a déjà fait sa première communion, et qui voit que le fiston a été insupportable pendant la messe, pas du tout attention à ce qu'il fait, aurait le droit, même le devoir, de dire à son fils, aujourd'hui tu ne vas pas communier, tu n'es pas en état de communier. Même si strictement parlant, ce n'est pas un péché mortel, il y a quand même une intention qui doit être là, l'intention droite, c'est-à-dire... de savoir ce qu'on fait, s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit savoir ce qu'on fait et faire les choses avec un grand discernement. Voilà pourquoi le Saint Paul utilise le mot discernement. Celui qui reçoit le corps et le sang de son Seigneur sans discernement boit et mange sa propre condamnation. Alors, il faut bien sûr ne pas tomber dans le scrupule. Parfois, des gens s'éloignent du sacrement de la Sainte Eucharistie, parfois pendant des années par scrupule. Ça, c'est pas bon du tout. Mais si vous êtes en état de grâce, à partir du moment où on est dans l'état de grâce, à partir du moment où on a gardé les exigences du jeûne eucharistique, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a l'intention droite, bien sûr, communier avec grande humilité. Vous demandez à notre Seigneur Jésus-Christ de rentrer en nous, dans notre âme, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et à ce moment-là, nous allons unir d'une certaine façon notre corps, notre pauvre nature humaine avec la nature divine, la Sainte Communion. D'un certain côté, c'est la divinisation de l'homme. On renouvelle en quelque sorte l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Au moment précis, notre Sainte Vierge Marie a dit à l'ange Gabriel qui venait lui annoncer qu'elle allait devenir la mère du Sauveur, quand elle dit « Qu'il en soit fait en moi selon votre parole, fiat mihi secundum verbum tuum », à cet instant précis, elle reçoit le corps de notre Seigneur, son sang, son âme et sa divinité en elle, tout petit dans son sein. Eh bien, nous faisons la même chose, mes bien chers frères, en comparaison, nous faisons la même chose à chaque fois que nous communions. Nous unissons notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et si nous voyons, malheureusement, que nous ne sommes pas en état de grâce, que nous ne pouvons pas communier, bien sûr, il ne faut pas que le fait que nous ne puissions pas communier soit pour nous, je dirais, une source de désespoir. Pas du tout. Il faut au contraire prier le bon Dieu qu'il enlève l'obstacle. Et 9 fois sur 10, l'obstacle c'est quoi? L'obstacle c'est l'orgueil. Pourquoi? Pour pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir se faire tout petit. Savoir se mettre à genoux au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'homme se présente à toute la hauteur de son orgueil pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas rentrer dans cet âme. Donc il faut avoir suffisamment d'humilité pour s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ en redisant les paroles du publicain de l'Évangile. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en moi, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais ayez pitié de moi dans votre, l'immensité de votre miséricorde. » Oui, mes chers frères, ce que nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui n'ont peut-être pas les idées très claires là-dessus, relisez dans le catéchisme de Saint-Pédis, dans le catéchisme du Concile de Trente, relisez justement les passages concernant la Sainte Eucharistie. Allez sur le site d'Anne Marie dont je m'occupe, vous avez l'adresse du site sur les feuilles jaunes. Allez écouter les conférences que j'ai préparées justement en catéchisme pour adultes, il y en a plusieurs, donc sur le mystère de la Sainte Eucharistie, à partir des sacrements. Alors demandons à Notre-Dame, mes bien chers frères, de nous aider justement à nettoyer notre intelligence, nettoyer notre volonté, nettoyer, purifier notre cœur pour que nous soyons, non pas dignes encore une fois, mais que nous puissions licitement, légalement, validement recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui demande qu'une seule chose, c'est de rentrer dans notre âme, puisse rentrer dans notre âme, mais rentrer dans notre âme comme chez lui, étant chez lui. Et une fois qu'il est rentré dans notre âme, il faut lui demander, voilà, mon Dieu, dites-moi ce qu'il faut changer. Alors mon Dieu a visité notre âme. Il est rentré dans notre âme, il a visité un peu tout, mais on dit, voilà, ça, il faut changer, là, il y a des choses qui ne vont pas, il y a encore la poussière qui traîne, là, il y a les toiles d'araignée qui sont encore là, il faut nettoyer tout ça, et là, il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut enlever tout ça, et mon Dieu va vous aider. Et si vous avez peur de communier, parce que parfois les gens ont peur de communier, bien, il faut passer par la Sainte Vierge. Il faut passer par la Très Sainte Vierge Marie, et si vous mettez la Très Sainte Vierge Marie dans votre cœur, à ce moment-là, le bon Dieu se sait immédiatement chez lui. On dit que les pères de l'Église qui disent ça, les anciens pères, disaient que lorsque le démon veut rentrer dans une âme, la première chose qu'il fait, c'est regarder par la fenêtre pour vérifier que la Sainte Vierge n'est pas là. Parce qu'il sait que si la Sainte Vierge est là, il va perdre la bagarre, il ne va surtout pas rentrer. Eh bien, la première chose que fait notre Seigneur Jésus-Christ quand il veut rentrer dans une âme, c'est la même chose. Et s'il voit que sa mère, sa sainte mère est là, Notre-Dame est là, alors il sait qu'il est chez lui. Ma mère est là, je peux rentrer. Alors demandons à toi, Sainte Vierge Marie, de nous aider justement à préparer notre âme pour que nous soyons, encore une fois, non pas dignes de recevoir, mais que nous ayons justement cette force de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir avec nous cette force surnaturelle, ce feu sacré capable de tout transformer, qui puisse nous aider à continuer le grand combat de notre vie, à savoir le combat de notre salut, pour qu'un jour nous puissions tous être au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.